l'époque romaine, ils ressemblent tous un petit peu à Jésus, quoi. Avec, il a les pieds nus, il a une barbe, il a des cheveux dorés, c'est magnifique. Bon, il y a peut-être un peu de peinture qui est partie, hein, peut-être qu'il était brun, mais bon. Et puis, il a un livre dans la main et il bénit ou il montre le livre finalement, de la main gauche. On ne bénit jamais de la main gauche, hein, il y a un problème. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Mais qui c'est alors? Alors je ne sais pas qui c'est. C'est un anonyme. Mais je ne serais pas étonné que ce soit un évangéliste en fait quand même. Et une chose qui m'a troublé, c'est que cette peinture-là, elle est dans un tableau qui ressemble à une fenêtre. Et effectivement, il y a eu une fenêtre. Et cette fenêtre a été bouchée. C'était une fenêtre qu'il y avait entre l'absidiole et le bas-côté, à une certaine époque. Si vous comprenez le plan, on voit où elles sont, là, petite fenêtre. Et en fait, ça se répétait deux fois de chaque côté. Et quand ça a été bouché, ces fenêtres-là, comme ils ont mis un évangéliste là-bas, ils ont très bien pu en mettre trois autres évangélistes dans les autres fenêtres bouchées. Et il y en a une qui est derrière l'hôtel de Sainte-Anne, là. Ah, j'ai envie de l'enlever, cet hôtel. Ah ben oui. Bon, on va pas tout faire aujourd'hui, hein. Alors, donc, là, j'énumère un petit peu les merveilles. C'est pareil. Ça m'a touché, la crosse, là. On a trouvé une crosse d'un abbé. On l'a retrouvée dans le transept, comme ça, 30 cm du sol. Bon, le sol a été surélevé, en plus. Il y a une époque où ça affleurait. Est-ce qu'il y avait d'autres abbés qui étaient enterrés à côté? Je sais pas. Enfin, en tout cas, lui, il n'avait plus que les os. Bon, c'est normal, hein, après tant d'années. Mais il y avait encore sa crosse. Et une chose qui m'a frappé, c'est que la crosse, bon, qui est dans la sacristie, la crosse a une tête de cheval, dis donc. Alors, j'ai comparé, je regarde... ces livres maintenant qu'on ne regarde plus, qui valent, qu'on vend 25 euros au marché, qui étaient des grands livres sur l'art roman, tout ça, les Masneau. Ah là, je cherche les Masneau. C'est toujours du 11e siècle ou 12e siècle. Parce qu'on dit que c'est du 13e siècle, mais non, c'est beaucoup plus ancien. Et en fait, là, ça devait être du début du 12e siècle, parce qu'il y a un abbé qui s'appelait Hervé. Alors Hervé, ben oui, mais s'il s'appelait Hervé à cause de Saint-Hervé, Saint-Hervé, c'était le patron des chevaux. Alors qu'ils aient mis sur sa crosse un cheval, ce serait logique. Alors, je ne suis pas capable de vous dire si mon intuition est bonne, mais ça me plaît d'y penser. Ça me plaît d'y penser. Et après, je dis, en tout cas, au niveau des dates, ça collerait pas trop mal si on compare à d'autres crosses de cette époque-là. Qu'est-ce que tu en penses, Christine? Parce que nous, on est un tandem, je dois vous dire. Hein, depuis le temps qu'on se connaît, on est un tandem. Bon, voilà. Est-ce que j'en ai assez dit sur la période romane? Vous allez méditer tout le reste, parce que je me suis bien appliqué pour dire en peu de mots. J'ai essayé de faire les meilleures photos possibles. Enfin, je me suis appliqué pour vous. Hein? Et je ne prends pas de commission. Oui. Oui. Oui.
Cette chapelle n'a jamais été restaurée.
Non. Et ça fait rêver. Ça fait rêver.
D'après ce qu'on a.
Les sondages.
Pardon.
D'après quoi?
Testé ce qu'on a pu.
Oui.
Voir à travers le plâtre qui a été déposé.
Des visages.
Des
oui, il y en a. Oui, ça se devine. Mais elles peuvent avoir recouvert les peintures antérieures de type roman. Oui. Il peut y avoir même plusieurs couches de peinture, comme dans toutes les églises. Oui. Avec un peu de chance, on peut retrouver l'équivalent de l'autre côté. Mais
est-ce que vous essayez justement de décaler
Alors là, moi, je ne suis pas de la DRAC. Hein. Oh là là, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, c'est certainement prévu, mais pas forcément dans cette campagne. Ce serait bien, ce serait tentant. Oui, oui. Oui, bien sûr. Oui, certainement. Je suis d'accord. Je vous ai pas dit aussi que quand vous montez en dessous de cette coupole, vous empruntez l'escalier du 11e siècle. Quand même, on est au 21e siècle. Vous empruntez un escalier de 1000 ans. Et ça fonctionne, hein. Il n'y a pas une marche qui manque. Ah, elle connaît, elle. Formidable. Alors, pour cesser avec la période romane, je parle des périodes romanes, parce que vous savez tous que, à un moment donné, on a voulu, peut-être par souci un peu d'ostentation quand même, améliorer la croisée du transept. Et donc, on a fait cette fameuse tour qui est du XIIe siècle, elle. Hein? Tandis que le reste, très sobre, est du XIe siècle. Bon, vous saviez ça, évidemment. Bon, allez, on avance, parce que faut quand même que j'aille plus loin que la période gothique, sans ça, je ne ferai pas mieux que Marc. Ah. Alors là, vous voyez que la photo est quand même du même format, quoi. J'ai choisi ça attentivement, et je me suis efforcé de montrer que c'était un cœur magnifique. Vous le voyez? Nous sommes dedans. Nickel, il est beau. Alors, une chose qui m'a frappé là-dedans, c'est que c'est au XIIIe siècle, et que l'abbaye, autant qu'on peut, on peut savoir cette situation, c'était pas une situation très brillante. Il réalisait pas toujours ce qu'il voulait. Il manquait un peu d'argent, en fait. Et pourtant, il a décidé, peut-être qu'il n'avait pas le choix, peut-être qu'il avait brûlé le cœur, je ne sais rien. Il a décidé de faire un cœur à la mode, un cœur gothique, comme on dit. Mais l'architecte, on lui a dit, écoute, c'est peut-être un moine d'ailleurs, hein, tu vas mollo parce qu'on est un peu fauché en ce moment. Alors il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Alors, il s'est appuyé sur les fondations du cœur roman. Il a même utilisé comme module la demi-colonne qu'on voit ici. Il dit, oh là là, des chapiteaux. Bon, parce que les bénédictins, en général, ils sont caractérisés par rapport aux cisterciens, par le foisonnement de leur décoration. Hein, Vézelay, tout ça, très bien. Ah, dit, non, moi, je calmos. Hein, je vais y aller sobre. Ça coûtera moins cher, déjà. Et puis, c'est pas mal, finalement. Sobre, comme ça. C'est aussi priant, hein, messieurs les moines. Alors après, il a monté, on appelle ça des grandes arcades, après le triforium. Le triforium, il est quand même assez génial dans son genre, hein, parce qu'il est ajouré. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'ajourés comme ça, en fin de compte. Hein. Et alors, et en même temps, plus il ajourait, moins il dépensait de pierre, finalement. C'est pas bête, le gars. Hein. Alors, finalement, on dit, tiens, ben, c'est pas mal comme plan, ça. Alors, je vais continuer là-haut. Et là-haut, c'est très ajouré. Donc, on a un des cœurs les plus légers qu'on puisse trouver. Magnifique. Et tout ça, peut-être parce qu'il s'est fauché. Vous voyez que maintenant que notre niveau de vie va baisser, peut-être qu'on fera des choses plus fines, en fait, plus humaines. On ne sait jamais. Hein, parce que les humains, c'est... ça passe ou ça casse. Hein. Bon, d'accord. Voilà, donc j'ai montré mon admiration. Il y a aussi quelque chose d'admirable dans ce cœur gothique, c'est que la charpente est du temps. Bon, il y a des pièces qui ont été remplacées quand même, mais c'est essentiellement de la fin du XIIIe siècle. Ça aide à dater d'ailleurs le cœur. Hein. Eh, on ne voit pas ça tous les jours non plus. Enfin, sauf à Langon, parce que Langon, ils sont encore meilleurs. Mais ça dépendait de Redon d'un autre côté. Donc, voilà. Alors oui, j'ai pris la peine de dessiner d'aplatir le cœur comme ça. Et vous voyez qu'il y a un rythme. C'est-à-dire que, vous voyez, en haut, bon, les grandes baies comme ça, fenêtres hautes, SO, A3 lancettes, ou A2 lancettes. Vous connaissez peut-être pas le mot lancette, c'est les parties de la fenêtre qui sont séparées par des colonnettes, qu'on appelle des meneaux. Lancette, meneau. Alors ici, il y y a deux melons, mais ça fait trois lancettes. Et puis, à un moment donné, il y a cinq baies, quand ça commence à s'incurver, comme ça, à deux lancettes, avec un seul melon. Vous voyez ? Et c'est plus subtil que ça, parce que après la deuxième travée, première travée, deuxième travée, à l'entrée de la deuxième travée, il y a des colonnettes qui sont triples, alors que là, il n'y en a qu'une. Donc il y a un rythme subtil qui fait la transition entre les baies à trois lancettes et les baies à deux lancettes, et celle-là fait la transition. Et là, ça fait 5, maintenant ça fait 7. C'est des bons chiffres, tout ça. C'est des magiciens qui, avec relativement peu de moyens, ont fait un des chœurs les plus purs. Mont Saint-Michel peut se rhabiller. Et en plus, il s'est arrivé 2 siècles plus tard. Incroyable, mesdames, messieurs. Et j'aime beaucoup votre église. Je suis peut-être un peu chauvin. Oh, j'aime bien le Mont Saint-Michel aussi, n'ayez pas peur. Voilà, donc c'est chouette, non ? Hein ? Alors, ah oui, je me suis même offert le luxe, puisque ça me coûte pas cher, d'aller jusqu'au bout de l'entreprise gothique. C'est-à-dire, on faisait sauter la nef romane et on remplaçait par des travées gothiques sur le module de ces travées-là. Et c'était formidable parce que il me fallait, à ce moment-là, avant la tour, il y avait 12 travées. Je sais pas comment ils faisaient. C'était des champions. Mais heureusement, Dieu merci pour la partie romane, et ils n'ont quand même pas eu le financement pour continuer. Bon, alors évidemment, je ne vais pas vous expliquer que ce n'était pas du tout ce genre de vitraux qu'il y avait. Hein, c'était des vitraux très colorés, dans les bleus, dans les rouges. Et d'ailleurs, regardez, mon associé, elle est capable de montrer tout de suite qu'il y a deux petits rikiki de petits vitraux qui restent, hein, de rien du tout. Mais bon, ça manque, il y en a eu partout. Je vous dis tout de suite que ces vitraux-là qui vont être déposés sont aussi une collection exceptionnelle. Parce que c'est la plus belle série de vitraux du XVIIIe siècle qu'on ait en Bretagne. Il faut quand même y penser. Et très lumineuse, peut-être trop, mais enfin, tout repose dans le dessin. C'est très moderne, ça. Dans le dessin des... Et il y a 4 variantes. Super. Bon, il ne faut pas que j'anticipe quand même non plus. Alors, on suit. Alors, dans l'époque gothique, il n'y a pas eu que... Je parle de, au pluriel, les périodes gothiques. Ben oui, parce que une fois qu'ils ont eu fait le cœur, une fois qu'ils ont commencé à refaire la façade, le dessin de M. Martin, là, n'était pas bête du tout, parce qu'il avait bien observé la tour qui reste, il avait regardé les portes et tout ça, il avait dit, oh là, il y avait forcément une galerie, enfin, il avait fait son plan. C'est pas bête du tout. Et donc, à cette époque-là, quelques temps plus tard, la guerre de succession stoppa l'élan des bâtisseurs. On se contenta de refaire les peintures dans les parties romanes subsistantes, comme on le voit dans le transept sud. Alors, on a redonné une couche de peinture pour moderniser l'église, quoi. C'est tout ce qu'on a fait. Il semble que le décor figuré de la coupole, qui évoque aussi des ogives, soit plutôt gothique. On dit que c'est un décor roman, mais non, c'est pas roman, c'est gothique. Et ça évoque des ogives, alors c'est un peu maladroit quand même, je sais pas pourquoi. Enfin, ils ont fait ce qu'ils ont. Alors, la grande chapelle au quotidien du cœur fut flanquée au milieu du XVe siècle par la chapelle de Bonne Nouvelle. Alors là, c'est encore toute une aventure, parce qu'évidemment, il y avait des fenêtres là, dans la chapelle. Mais, d'ailleurs, elles sont restées longtemps, les fenêtres, hein. Ça a été bouché au 19e siècle, simplement. Et ils ont flanqué le bas-côté, la chapelle du bas-côté, d'une autre chapelle. Alors ça donnait une ampleur extraordinaire à l'église, bien entendu. Vous voyez ? Et tout ça, à l'origine, communique. Et on dit que c'est la chapelle de... Comment on l'appelle ? La chapelle au duc. Pas du tout, ça n'a rien à voir avec le duc. C'était Yves le Sénéchal, l'abbé. Mais lui, c'était un champion. Hein. Il, il fut atterri comme un prince en 1468, ayant achevé de peu à obtenir que son abbaye devienne le siège d'un évêché avec l'appui du duc François Ier. Vous savez ça, que Redon a failli devenir un évêché. Mais la politique se mêle partout, hein, y compris dans l'Église. C'est pour ça que personne dans l'Église va critiquer M. Poutine, mais c'est lamentable. Bon, alors... Donc, signalons enfin quatre enfeux. Tout ça, c'est... Les enfeux, vous voyez ce que c'est? C'est des niches dans les murs où il y a des sépultures. Alors, il y a l'enfeu de M. Scotti, là. Don Scotti, c'est un Italien. Bon, ces gens-là, c'était ce qu'on appelle déjà la commande. C'est-à-dire qu'on confiait l'abbaye à un noble. Un noble qui n'était même pas obligé de résider sur place, mais il encaissait les revenus. Une grande partie des revenus. Alors, on est très, très fiers que M. Richelieu était l'abbé commendataire. Mais c'est un philo, Richelieu. Hein, il vous a pompé vos trucs pour construire sa ville de Richelieu. Maudit soit Richelieu. Hein? Alors, il y a pourtant son blason, là, sur le... Voilà. Non, c'était comme ça. Eh, l'Église n'a pas toujours été parfaite. Hein. On dit qu'elle n'est pas parfaite, mais elle n'a jamais été, hein, je peux vous dire. Alors, donc, quatre en feu... L'abbé... Ah oui, donc le Pompillan. Alors, je l'aime bien, le Pompillan, là. C'était des seigneurs hein, du nord de l'Ille-et-Vilaine d'aujourd'hui. Alors, lui, ben, il y a une belle inscription, tout ça. Et puis, bon, évidemment, il y avait Agisan qui a disparu à la Révolution. Après, il y en a quatre en feu. Oh là là, François Ier. Alors, moi, j'y crois, hein. J'y crois. Ici, je regarde là-bas. Bon, ça a été un peu abîmé, mais c'était quand même très très fin quand on regarde ça. Et ce serait très très logique qu'il y ait eu un duc quand même chez lui. C'était pas étonnant, parce que quand même, vous savez qu'à l'époque romane, il y avait quand même une sépulture formidable. Comment il s'appelait, c'est là ? Le duc. Alain Fergent. Alain Fergent. Et Ermengarde, j'en ai pas parlé. Oh là 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 là. Alors, Alain Fergent, il était revenu complètement azimuté de la croisade. Hein, faut pas croire que c'était si facile que ça. Et on avait cru bon de confier sa succession à son fils. Et puis lui, on l'avait mis chez les moines à Redon. Super. Mais alors, quant à croire que Ermengarde l'avait accompagné, mais elle était pas folle. Hein, on lui remonte sa maison. Là, mais vous rêvez, non? Ermengarde n'a certainement pas fini ses jours à Redon. Qu'est-ce qu'on aurait fait avec ses moines? Elle qui avait un caractère extraordinaire. Et non, non, non. Alors, il y en a qui disent qu'elle est morte en Terre Sainte parce qu'elle avait son frère qui était quand même roi de Jérusalem. Il y en a d'autres qui disent que... Moi, qu'elle est morte à Saint-Sulpice-la-Forêt parce qu'elle avait fondé Saint-Sulpice-la-Forêt. Et on les voit dans un texte, elle a 80 ans. Donc, je ne comprends pas pourquoi elle se déplaçait beaucoup. Je pense qu'elle est morte là-bas. Mais enfin, après, ils ont rapatrié son corps ici, dans le cœur. Là, je ne vais pas le nier. C'est d'accord. Mais bon, c'était pas le son du vent. Faut pas rêver, les amis. Hein? Bon. Oui. Oui, oui. Oui, oui, on est parti. Oui. Ah oui. Bon.
Ouais. Et alors que certains textes disent que cette priorité existe. Et donc,
voilà. Eh bien, je veux dire, mon sentiment, j'y crois. J'y crois parce que c'est très logique. C'est très logique. Mais c'est très délicat de faire des fouilles. Là. Moi, je pense qu'on pourrait s'offrir un petit carottage, quand même, d'un diamètre de 2 cm, comme ça. Hein, faire un petit carottage.
Oui, Pierre Chopin, là. Hein?
Barcelona, oui, oui.
Pierre Chopin.
Oui, oui. Non, personnellement, ça ne me serait pas du tout étonnant qu'il y ait une crypte dans une église de cette importance. C'est tellement logique. Et d'ailleurs, peut-être que par simple observation à l'extérieur, si on regardait bien les choses, on pourrait aussi faire un... Bon, si on voulait. Mais ça n'est plus la mode de gaspiller de l'argent pour chercher une crypte. C'est dommage quand même. Moi, je serais curieux, j'aurais envie de savoir. Ah ! Ben non, c'est pas des millions. Oh ! Hein?
Géoradar.
Oui, mais c'est peut-être plein de terre. Peut-être que vous avez... Bon, alors allez-y. Occupez-vous de... Occupez-vous de ça. Et alors, attention, parce que il y a ici, l'église romane, c'est la deuxième grande église. Peut-être qu'il y a eu... Il y en a forcément eu une autre avant, qui était l'église carolingienne. Hein, comme on appelle. Et l'église carolingienne, pour moi, elle était dans la nef. Ce serait logique, parce que presque toutes les abbayes se sont développées comme ça. Ils ont d'abord fait une église en bois, mettons. Après, ils ont fait une église en pierre, à l'époque carolingienne, mettons. Mais elle n'était pas très, très grande. Et alors, après, dire, mettons, avec le nombre de moines qu'on a, mais regardez ça. Et puis, ça va continuer. Alors, on va agrandir l'église. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils commençaient par construire un chœur au-delà de l'église. Et une fois qu'ils avaient construit leur chœur, ils étaient contents, ils pouvaient faire leur prière et tout. Et ils continuaient l'église dans l'autre sens. Et à ce moment-là, ils abattaient l'église. Ce serait logique. Et donc, ce serait logique de penser que l'église carolingienne était en deçà du chœur actuel. Parce que à Saint-Malo-Grand, ça, c'est la même chose. Il y a une quantité d'exemples qu'on pourrait donner. Bon, on passe du coq à l'âne, là. Je m'excuse, mais c'est normal. Vous suivez?
Oui.
Oh là là, bonne équipe. Donc, on avance. On avance. Ah oui, les quatre en feu, quand même. Je vous dis le quatrième. Celui de la Biscotti, bon, c'est d'accord. Récit inachevé, d'accord. Le plus intéressant pour les pèlerins, s'il avait été bien restauré, ben non, serait celui d'un seigneur bernois dans le bas-côté sud. Le gisant était assisté de la Vierge, de Saint-Jacques et de Saint-Michel. J'ai fait le petit dessin, là. Ah, j'ai peut-être un peu fantasmé. Mais moi, je vois très, très clairement Saint-Jacques, Saint-Michel et la Vierge Marie au pied du... Hein, au-dessus du gisant. C'est nickel, quand même. Si on veut faire un chemin, là, pour Mont-Saint-Michel-Compostelle. Vous voyez le truc? Yes. Bon. Alors, et on avance. Hein. Les périodes classiques. Là, nous y sommes. Les périodes classiques. C'est la même chose parce qu'il va falloir distinguer entre, mettons, la première moitié du XVIIe siècle, où c'est la réforme des Maurices et tout ça. Ils en veulent, ils sont pas bêtes et tout. Ils ont de l'argent et ils reconstruisent intelligemment à leur façon. C'est-à-dire qu'ils abattent pas mal de trucs quand même. Bon, voilà. En tout cas, ils ont fait un immense complexe qui a fini par être classé monument historique quand même. Hein, parce qu'il y en a qui se sont battus pour ça. Et ça s'est fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça mérite. Donc j'ai dessiné comme j'ai pu le complexe et tout ça. Et c'est la période de ces retables. Et puis il va y avoir une deuxième période importante, c'est à la fin du XVIIIe siècle. Quand on est obligé de diminuer l'église et qu'on sauve le chœur et s'y traver et d'un côté transept. Bon. Et qu'on fait ses vitraux et tout ça. Alors, arrêtons-nous quand même à ce retable de cette époque-là. Il est grandiose quand même. Alors, évidemment, on l'a beaucoup critiqué. Parce qu'il y a une époque en France où on ne s'intéressait qu'au gothique. Même le roman, c'était barbare un peu. Et cette église-là a été vue d'abord comme un chef-d'œuvre gothique, à cause du chœur, à cause de la tour. En fait, il y avait un gag, c'est qu'ils croyaient que la nef avait été reconstruite à la fin du XVIIIe siècle. Ils ne savaient pas qu'elle était romane. Bon, donc ils voyaient, vous pouvez lire de l'aigle et tout ça, c'est l'église gothique. Bon, elle est superbe. Elle a eu un cœur fabuleux de finesse et tout. Une tour magnifique. Ah oui, la tour, en fait, je l'ai rattachée à des constructions, par exemple à Guingamp. Bon, c'est un atelier ducal qui a fait tout ça. C'est-à-dire des grands ateliers. Hein. Mais alors, ce retable, c'est épouvantable. C'est ce que je lis. Hein. Si je pouvais, je le ferais sauter vite fait, bien fait. Bon, moi, c'est pas mon cas. Mais parce que justement, j'ai bien conscience que la sensibilité religieuse, bon, elle a évolué. D'abord, des moines qui vous font ces immenses
église majestueuse et sobre comme ça. Et puis après, le gothique, il nous vient de la ville et tout, on fait un chœur gothique magnifique. Et après, il y a une autre sensibilité. Une autre sensibilité. On en a marre d'avoir le soleil plein la figure quand on célèbre la messe. Ah, vous avez vu cocher ces vitraux là. Alors, ah ben voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait en deux temps, ce retable. Ils ont d'abord caché les trois arcades du bas. Et puis après, ils se sont dit, on n'en a pas caché assez, bon sang. Alors, ils ont. Vous voyez, ils ont rajouté les deux petites là. Hein, ça a été progressif. Enfin, c'est l'idée que je m'en fais. Et si vous éliminez ça et ça, que vous gardez, que ben c'est une majesté quand même impressionnante. Et c'est l'agrandissement. Est-ce que je vais montrer ça? Où est-ce que je suis rendu là? Ouais. Ah, j'ai pas fait ça. Ah, si. Non. Là, vous n'êtes pas gâté. Parce qu'en fait, il s'appelle Tugal Karis. Alors, Tugdual. Alors, on croyait qu'il était de Tréguier, parce que Saint-Tugal est enterré à Tréguier. Mais non, il y avait une église Saint-Tugal à Laval. Il était bel et bien de Laval, ce petit Tugal. C'était baptisé à Saint-Tugal et tout. Et son prénom, c'était Tugal, ou Tugdual. Et c'est le premier grand retablier, enfin, un des premiers grands retabliers dans la pierre. Hein, c'est, on peut dire, retable en bois. Ce n'a pas été le premier retable de l'église. Hein. Ils ont fait d'abord dans la chapelle là-bas, un retable en bois, après bon. Mais il fallait quand même se lancer, quand on avait un cœur gothique de cette pureté, pour essayer de lui substituer quelque chose d'autre. Alors, il ne fallait pas se planter.
Alors, les parties, en fait, c'est l'agrandissement d'un retable de grandeur normale. Alors, les retables de grandeur normale de Tugal Karis, il y avait un tableau d'abord qui pouvait être carré ou se terminer par un ministère. Il y avait deux colonnes de chaque côté, et puis il y avait un fronton dans lequel émergeait une partie haute, comme ça, avec une niche. Alors, on a plusieurs exemples dans la Mayenne de ces retables de Tugal Karis. Comment ça se fait que ce petit retablier de rien du tout est appelé à faire le retable en 1634 de Saint-Sauveur de Redoux, cette grande abbaye? Ben, c'est le réseau bénédictin. Hein, les bénédictins, ils disent, ben, il n'est pas si mal que ça. À Saint-Denis du Maine, moi je trouve qu'il s'est bien débrouillé. C'est pas très grand, mais vous pourriez prendre le même modèle. Ah oui, mais nous, ça va faire 18 mètres d'eau. Eh bien, allez, on y va. Alors, il est obligé de faire attention quand même, parce que trouver des colonnes proportionnées au retable, ça se trouve pas comme ça dans les carrières. C'est en marron quand même. C'est bien de Saint-Berthevin, à côté de Laval. Ah oui, oui.
Mais alors, du coup, il dit, bah oui, mais je vais jamais... Parce que d'ordinaire, les retables, les sous-bassements des colonnes étaient moins hauts. Vous voyez, là, il y a une partie basse, après, il y a un sous-bassement des colonnes. Il a été bien obligé de l'augmenter, parce que sans ça, il n'aurait jamais trouvé de colonne assez grande. Vous voyez le truc. Donc, ouais, j'ai passé quand même pas mal de temps dans ma jeunesse à dessiner ce retable. Waouh, je l'ai fait. Et j'ai aplati un peu les affaires. Et on voit que c'est quand même très majestueux. Alors, il y a tout un vocabulaire en essence avec les jeunes hommes qui semblent allongés à faire la sieste dans une position vertigineuse. Hein, c'est des champions. Alors, bon, ce ne sont pas des anges. Hein. Alors, il y a des espèces de stalagmites là qui montent. Tout ça, c'est des motifs Renaissance. On est au début du XVIIe siècle, mais on s'inspire encore de la Renaissance. Et alors, on a beaucoup d'admiration dans cette église de granit, quand même, pour le tuffeau des bords de Loire. Et comme Redon est pas mal placé, alors on fait descendre le tuffeau depuis son mur, la Loire, puis on remonte le fleuve. Et puis on a un petit port, là, vous savez ça, avec un boyau, là, pour amener les choses. Alors ils débarquent tout ça, et ils ont fait un retable extraordinaire. Je sais pas combien ils ont mis de pierres là-dedans. Oh!
Et bien alors, par contre, le tuffeau, c'était très bien, mais le marbre.
Alors, pour que ça chante, il fallait du marbre noir
et du marbre rose.
Et ils ont eu beaucoup de marbre rose.
Donc ils mettaient quand même le paquet. Alors pendant longtemps, on a remercié M. de Richelieu. Ah non, n'y comptez pas. Il a exigé que son blason soit là. Mais bon, c'est tout. Hein. C'était un seigneur. Hein, là, là, il avait trop de frais pour faire sa ville de Richelieu. Il n'a même pas eu le temps de finir. Vous voyez le truc? Il ne vous a pas assez plumé. Hein?
Donc, voilà. Donc, alors c'est un retable qui est quand même
dédié au Saint-Sauveur à l'origine. Hein. Je pense que c'était une descente de croix ou des choses comme ça. C'était souvent ce qu'on faisait. Mais, on... Oui?
Le blason de Richelieu, c'est où? Là-haut, tout là-haut. Tout là-haut, au fond de la pierre, là-haut.
Dans le cartouche, tout là-haut.
Avec les deux crosses.
Je me trompe. C'est pas Richelieu?
Non, c'est pas Richelieu.
C'est pas Richelieu. Attention, je me suis trompé. Stop. C'est quoi?
Mais non, c'est pas Richelieu, les crosses.
C'est l'abbaye. Non, Richelieu n'est pas là. Tant mieux. Tant mieux. Hein? Ah oui, il y avait un quelqu'un qui était prêt à les décrocher. Oh là là, bon, paix à son âme, hein, il a fait des bonnes choses quand même. Il n'a pas aidé les protestants, hein, c'est sûr. Mais enfin bon. Alors.
Non, Richelieu n'est pas là.
Richelieu n'est pas là. Bon, tant mieux. Voilà. Alors. Dans le plâtre. Ouais. Bon. Alors, ça m'arrive de me tromper, hein, si vous pouvez me corriger, je suis enchanté. Voilà, là-dessus, j'ai aucun égo.
Juste une chose, par rapport au sur le vitrail qui est là-bas.
Oui.
C'est celui qui est en
bas. Ah oui, il y a son blason.
Oui, il y a le blason, mais tout en bas. Le blason, pas de. Ouais. Mais tout en haut, rouge, avec les crosses qui se regardent.
Ah oui.
Ça, c'est les abbés de Redon.
Ah oui.
Et là, c'est ça. Madame a même encore, de toute façon, de Noël. Ouais. C'est le symbole des mauristes avec les yeux et la bleue.
Ah oui, d'accord. Bon, il y a un petit mystère avec les crosses. Bon, ce qu'on dit d'habitude, c'est qu'un abbé a la crosse tournée vers lui et un évêque a la crosse tournée vers l'extérieur. Bon, là, ils étaient un petit peu, ils se prenaient pour les deux, en fait. Bon, alors, les compétiteurs de crosse, moi, je ne suis pas du tout aristocrate, je laisse tomber les histoires.
Le tableau... Non, le tableau est
quand même géant. Ça fait presque 5 mètres. C'est du géant.
Alors, bien sûr, il y avait des tableaux dans les petits retables latéraux. Il y avait des statues dans les
niches entre les... Et c'était un décor qui était certainement sur le calvaire. Hein, à l'origine. Parce qu'on était quand même le Saint-Sauveur. Hein.
Et en fait, si c'est devenu un décor marial...
C'est parce que cette église n'est plus consacrée, on dit toujours Saint-Sauveur de Redon, mais c'est Notre-Dame en Saint-Sauveur, en fait. Parce que l'église paroissiale était dédiée à la Vierge Marie. Et l'église paroissiale qui a disparu, et quand, avec la Révolution ou avec l'Empire, on a demandé aux communautés de choisir s'ils voulaient continuer de célébrer dans l'église paroissiale ou d'utiliser l'abbaye. Et si on n'utilisait pas l'abbaye, on l'abattait, parce que les moines étaient chassés. Donc, ils ont choisi l'abbaye. Vous avez de la chance. Et c'est l'église paroissiale, qui elle aussi était romane, qui avait aussi son intérêt, qui a disparu. Mais elle a pris le vocable, ici, Saint-Sauveur a pris le vocable de Notre-Dame. C'est pour ça, je fais
une digression, disons, pour expliquer le tableau.
En fait, la fête patronale de l'église ici, c'est le 15 août, c'est-à-dire la grande fête mariale. Depuis que la paroisse est installée dans l'église. Et donc, il y a eu une polémique en l'an 2000 sur le choix du tableau. Moi, j'avais proposé depuis longtemps, depuis 1996, j'avais fait mes petits dessins, en disant que ce tableau-là, ça conviendrait bien, parce que C'est la copie d'un tableau qui est dans une très grande abbaye à Rouen. Et un jeune homme, qui est mort d'ailleurs très très jeune, mais qui était disciple de Boucher. Boucher, c'était un peintre du XVIIIe siècle, assez à la à belle touche, quoi. Et il s'est appelé aussi l'image du Magnificat qu'on voyait ailleurs. Donc c'est pas un peintre extrêmement original, mais c'est un peintre qui était jeune, qui avait fait ce tableau, qui maintenant était dans une abbaye de Rouen, mais qui était fait pour des sœurs de la Visitation. C'était une institution. Et donc, c'était le tableau du maître-autel des Sœurs de la Visitation. Et je l'avais vu dans un recoin de cette église de Rouen, au-dessus d'un confessionnal. Je me suis dit, tiens, ça irait bien comme tableau, vu qu'il fallait quand même, pas trop perturber la statue de la foi, mettons, qui est devant. Alors, c'était difficile de trouver un sujet où ça colle comme ça. Et j'avais fait cette proposition. Et alors finalement il y avait l'an 2000 qui s'y prêtait pour parce que avant tu m'as dit que tu avais apporté la photo avant on avait mis c'était pas idiot hein, on avait mis à la place d'un tableau qu'on avait perdu on avait mis le fameux grand Christ en disant mais c'est quelqu'un de Redon, c'était pas du tout quelqu'un de Redon, c'était ah, elle est bonne ta photo là. Alors, les gens étaient habitués à voir ce Christ ici, mais c'était très perturbateur par rapport à l'harmonie du cœur. Et donc, moi je pensais qu'on aurait pu trouver à ce Christ un autre emplacement. Ah oui, je regarde. Donc, mais que là, le garder là, c'était quand même austère. En plus, c'était sur un fond de chocolat et tout. Oh, c'était dur, quoi. Le Magnificat, c'était un sujet qui convenait parfaitement. Seulement, il y a eu cette cabale, et quand on est comme ça, on ne prend pas trop le temps de réfléchir. Et sur ce fameux journal, le maire n'était pas d'accord, monsieur de la Tour, qui était comme quelqu'un un grand personnage, n'était pas d'accord. Personne n'était d'accord. L'association n'était pas d'accord. Et finalement, tout s'est arrangé. Mais on a eu un petit peu chaud. Heureusement, parce que la DRAC, elle, pour l'an 2000, voulait bien mettre un tableau, mais un tableau contemporain, fait par un artiste. Alors on dit, mais quand même, il y a déjà pas mal de choses dans ce cœur. Alors finalement, c'était Madame de Maupoux, la grande patronne qui avait tranché. Bien entendu qu'il faut faire une copie, qu'elle avait dit. Mais comme il n'y avait qu'une copie qui était proposée, c'était la mienne. Eh bien, c'est passé comme une lettre à la poste. Vous voyez le truc ? C'est comme ça que j'ai fait un des gros coups dans ma vie. Hein, mais c'est bon. C'est un coup de chance, enfin. Alors, donc, maintenant, tout le monde sait bien. J'avais remarqué que la Vierge était assez proportionnée à la Vierge en statue qui est en haut, tout ça. Ça collait pas trop mal. Donc, voilà. Voilà, c'est un petit aparté parce que j'ai plus que 10 minutes. Alors, 18. On est au 18e siècle, deuxième période classique. On renouvelle tous les vitraux. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Ils sont très lumineux, mais c'est uniquement les traits de plomb qui font les dessins. Et c'est quand même une série rarissime, on peut dire. On peut même dire que c'est la plus grande série qu'on ait en Bretagne, peut-être en France, d'ailleurs, de ces vitraux du XVIIIe siècle, de la fin du XVIIIe siècle. Alors, il y a un truc qui m'avait impressionné, c'est que moi, je célèbre la messe tous les matins à 7h à Saint-Sauveur de Rennes. Ça s'appelle encore Saint-Sauveur chez nous. Mais la Vierge, c'est aussi Notre-Dame des Miracles. Bon, pareil, hein, la Vierge, elle est partout chez nous. Alors, j'ai remarqué, alors les vitraux ont été renouvelés après la guerre aussi, mais au XVIIIe siècle, il avait bouché une fenêtre et il avait fait un tableau qui imitait les vitraux qu'il y avait à ce moment-là. Et c'est exactement les mêmes vitraux que les plus répandus d'ici. Alors je suppose que c'est un atelier rennais qui a fait ça et qui avait aussi fait les vitraux de Saint-Sauveur de Rennes qui ont tous disparu. Il n'y a plus que celui qui est peint et qui est signé d'ailleurs de 1793. Bon, alors on avance les amis parce qu'il nous reste des siècles à parcourir en quelques minutes. Oui, alors, si je vous dis pas tout, vous allez prendre le temps de lire le petit livre pour 3 euros. Hein ? Bon, alors... Les périodes paroissiales. Ah, enfin, c'est nous. Alors, évidemment, j'ai changé de dispositif parce qu'il y a quand même une rupture. Hein, une rupture dans la vie de l'ancienne abbatiale, ça devient une église paroissiale. Alors je dis mon texte. Alors que l'abbatiale venait de panser les plaies de l'incendie, survient la révolution. Ce fut une grande césure dans l'histoire de l'édifice. Implanté à la charnière des diocèses de Vannes et de Nantes, c'était le cas de Redon, hein, historiquement, il passe avec la ville qu'il a suscitée en Ille-et-Vilaine et dans le diocèse de Rennes. Ah oui, c'est comme ça. Il devient église paroissiale à la place de celle de la cité et adopte son patronage de Notre-Dame de l'Assomption. Il est désormais séparé des bâtiments conventuels, privatisés, y compris la belle sacristie des Mauristes. Ça, c'était dur quand même. Ceux-ci recevront rapidement le collège, puis le lycée Saint-Aubert, le classement au monument historique 1862 et 1875 sera une autre évolution qui imposera des compromis parfois douloureux entre l'architecte des Beaux-Arts et l'archiprêtre. Parce qu'ici, Paul, t'es un archiprêtre, mine de rien. Hein ? C'est beau. Tu vas bien être archiprêtre, moi. Alors, voyez, vous êtes bien d'accord que ça a été une césure assez forte. Et donc, au niveau du mobilier et tout ça, il y a eu pas mal de changements. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir que le mobilier qu'on a construit durant ces deux siècles a sui les goûts. Par exemple, au début, on va faire un mobilier néo-gothique, parce que cette église est gothique. Par exemple, dans la nef, on avait fait une chaire gothique. Et il paraît que le Saint-Michel, qui est très sympathique, qui n'était pas en couleur, il était en haut de la chaire gothique. C'est Roger qui m'a raconté ça, votre prêtre, là. Roger, pas tout jeune, hein, pas, bonne génération. Hein. Alors, voilà. Bon. Et il y avait le banc de la fabrique, pareil, tout ça, en gothique. Et puis, tout d'un coup, on s'aperçoit que la nef, contrairement à ce qu'on pensait, elle est romane, bon de là. On croyait que c'était Piou, qui avait... Tout le monde le croyait au 19e siècle. Et même l'abbé Brune et tout ça. Alors on dit, ah oui, elle est romane, notre église, en dessous. Alors, on se met à faire des immobiliers néo-romans. Par exemple, l'hôtel de Sainte-Anne, c'est néo-roman quand on regarde. L'hôtel de célébration, qui a été fait après le concile, eh ben, il est plutôt, si on me demandait, il n'est pas gothique. Il est plutôt roman. Et il y a eu aussi de l'immobilier classique. Parce que pour se marier avec un hôtel comme ça, il fallait un tableau classique. Donc on n'a pas fait un tableau néo-gothique ou néo-roman. Vous voyez, c'est assez, assez sympathique de voir qu'il y a une logique dans les choses qui ont été faites depuis deux siècles. Combien de reste de secondes? 2 minutes. Ah, j'ai tenu, hein, j'ai tenu. Alors, là maintenant, il faudrait que je vous dise, nous pouvons rêver sur cette église. C'est une église formidable, il y a une paroisse formidable, des prêtres formidables, situé de façon formidable, et on peut rêver sur cette église. Je vois par exemple ici un confessionnal, dans le fond là-bas. C'est moche. Qu'est-ce qu'il fait là? Il bloque tout. Je voudrais. Alors, pourquoi il y a des confessionnaux néo-gothiques là-dedans? Parce que derrière ce retable, il y avait aussi des retables, il y avait des autels, tout autour du retable. Il y avait un retable de ce côté-ci, il y avait 3 autels de l'autre côté. Les hôtels gothiques qu'il y avait dans le fond des chapelles avaient disparu. Et ils avaient été remplacés au 19e siècle par des confessionnaux. Ah ben oui, mais en 1930, on dit, ben dis donc, on va remettre des hôtels, nous. Alors on fait une série avec Odorico et tout ça, très bien dessinée, etc. Alors, vous avez ici 5 hôtels art déco. Waouh, formidable. Bon. Alors, bah oui, mais qu'est-ce qu'on va faire des confessionnaux? Alors, ils se sont mis à se balader, à droite, à gauche, tout ça. Ils sont tous pareils. On n'en garde rien, ce serait bien assez. Hein. Je pense que ça sert. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Donc, alors, il y a ça. Il y aura à réfléchir. On a 3 ans pour le faire. À un cœur qui... Un hôtel qui tienne la route. Mieux, quand même. Mieux. On va y réfléchir, mais bien dessiner le cœur. Alors, moi, mon rêve, c'est que La croix de Saint-Sauveur, je trouve que c'est Yvonique Montboussin qui était un bâtisseur, hein, qu'il avait placé là le Christ, il n'est pas bien à manger l'arcade. Il faut le mettre pile poil dans l'axe. Bon, j'ai fait des petites propositions là. Il me reste 30 secondes. Vous avez été formidable, vous avez écouté jusqu'au bout. Alors, ce que j'ai pas eu le temps de lire, de dire, vous allez le lire. Et donc, vous êtes obligé d'emporter ça, 3 euros. Et, mais je ne prends aucun bénéfice là-dessus. Je dois le dire.
Hein? Pourquoi Richelieu a laissé le retard à Renault?
Pourquoi Richelieu? Ah, mais lui, il était d'accord pour qu'on mette un retable. C'était dans l'air du temps. On modernisait, mais c'était pas lui qui payait. C'était vous. Bon, ben, j'ai fini.
Vous pouvez vous arrêter maintenant, parce que le village, on a invité d'autres personnes à venir vous
écouter.
Présenter et évoquer avec vous le calendrier des travaux, le plan technique, sauf si M. Droguet est arrivé, nous a rejoint, mais sinon je vous laisse mettre le micro. Il y aurait là assez peu de temps pour les questions.
Non mais toutes les réponses sont là. Et si c'est faux, vous me dites. Comment?
Je vais laisser les négociations en cours. Je vais juste vous donner quelques informations sur les travaux, puisque vous avez pu voir les échafaudages se monter. Vous n'entendez pas?
Alors comment ils m'entendent? C'est fou, hein?
Est-ce que là vous m'entendez?
C'est ça, tu traites, hein? On est formaté, hein?
Moi, je ne vais pas retirer mon masque. Je préfère vous protéger et me protéger moi-même.
Formidable, c'est clair.
Pour faire le point sur les travaux, vous avez pu voir le montage des échafaudages depuis janvier dernier. Non, dernier. Alors, c'est marrant, hein, parce que vous vous entendez au fond du bout, mais proche, vous n'entendez pas.
Attends, mais
je vais par contre m'écarter, et comme ça, je vais retirer mon masque.
Allez, retire ton masque.
Ah. Mais en fait, c'est pas forcément très bien.
Non, c'est pas bien.
Donc, vous avez pu voir les échafaudages se monter à partir de janvier dernier. Et là, on est parti pour 20 mois de travaux. On est... Non, je ne suis pas certain parce que c'est avec l'écho. Et là, ça crée. Donc, on est parti pour 20 mois en tranches fermes de travaux. Alors les tranches fermes, cela correspond ici au cœur et au bras sud du transept. Ça concerne les couvertures, ça concerne également les élévations, c'est-à-dire les maçonneries, les vitraux. Après, il y a des tranches conditionnelles qui seront programmées selon aussi les ressources de la municipalité, mais aussi l'avancée des travaux actuels. Parmi les dernières informations que l'on peut vous communiquer. Alors je reprends hein, parce que... Donc l'échafaudage extérieur va être terminé d'être installé à la fin du mois de mars, début avril. Et c'est à partir de ce moment-là que la couverture pourra être déposée en vue d'un remplacement. D'ailleurs, il y a des études qui sont actuellement faites pour savoir quelle... système de couverture va être utilisé dans le cadre de cette restauration. Actuellement, l'architecte Pierre-Antoine Gatier, qui s'occupe de cette restauration, avec la DRAC, réfléchit à prendre une lauze de Corrèze qui pourrait très bien remplacer la couverture qui se trouve aujourd'hui. Bien entendu, le filon ne sera peut-être pas suffisant, il faudra rechercher d'autres lauzes ailleurs pour trouver cette restauration. Une fois que l'échafaudage extérieur sera installé, il y aura l'échafaudage intérieur. Et c'est là où ça aura un impact sûrement sur cette abbatiale et sur la vie de l'abbatiale. Ça va être une fermeture de l'abbatiale à partir du 21 mars jusqu'au 8 avril vraisemblablement pour l'installation de cet échafaudage. Il y aura une dépose de l'estrade du retable à partir du 11 mars. Et à partir de ce moment-là aussi, des études stratigraphiques. Alors ça, c'est une étude stratigraphique, c'est-à-dire qu'on va gratter. On va gratter les différentes couches de peinture pour arriver à la couche originelle, la première couche. Et après, il y aura une discussion avec la DRAC, avec Pierre-Antoine Gatier, l'architecte, pour savoir quelle couche de peinture sera retenue. Est-ce que c'est celle d'origine? Est-ce que c'est celle que vous voyez aujourd'hui? Mais nous aurons toute cette étude qui sera menée par la suite. Parmi les autres travaux et les autres déposes, vous aurez la porte principale en avril. Il y aura une porte qui va être provisoire et qui va la remplacer. Et puis, la dépose également des vitraux à partir du 15 avril. Vous voyez, le chantier se met en route et on part à minimum pour 20 mois de travaux.
Merci.
Bravo.
Merci.